Donc nous continuons une redécouverte de l'évangile selon saint Jean avec une méthode un peu originale qui est en fait la méthode des civilisations orales qui ne compose pas comme nous un livre mais qui compose quelque chose qui va être retenu dans une mémoire orale. Alors chaque événement constitue un récitatif que l'on apprend par cœur, une perle dans un collier. Et l'évangile selon saint Jean est un filet. Et nous avons vu qu'il y a des fils donc horizontaux, on va dire, et des fils transversaux verticaux, on va dire. Alors il y a six fils verticaux, nous avons appelé ABCD, EF, et nous sommes au fil D. Alors il y a des thèmes de méditation. Dans ce fil vertical D, il y a un thème qui va s'appeler Kurbana. C'est un mot araméen qui veut dire rencontre, mais aussi sacrifice, mais aussi les saints mystères, la messe, l'Eucharistie. La dernière partie de la messe, en fait. Et puis, il y a un autre thème transversal, qui est que Jésus relève le temple. Alors, on va commencer par le plus facile, le Kurbana. Qu'est-ce que le Kurbana? La racine du mot araméen signifie au sens premier le fait de s'approcher. Par exemple, Matthieu chapitre 8, verset 5. Donc, être proche. Par exemple, Matthieu chapitre 4, verset 17. Ou même le fait de toucher. Luc chapitre 7, verset 39. Et ce qui est offert à Dieu est donc touché par Dieu, d'où le mot « korban » qui est même resté dans le texte grec de Marc chapitre 7 verset 11 pour désigner une offrande destinée au temple, c'est « korban ». Dans l'évangile selon saint Jean, on a cette racine qui donne « korban » pour dire « faire toucher un kurbana ». Ce qui s'est traduit en grec par « offrir un culte à Dieu ». Eh bien, vous penserez que quand vous offrez un sacrifice au Seigneur, eh bien, le Seigneur touche le sacrifice, il sanctifie et il est touché. Quel mot pourrait désigner mieux que « kurbana » le fait de toucher, d'être touché par Dieu dans la célébration des saints mystères? C'est par ce mot magnifique que l'on pourrait rendre par rencontre, que l'Orient syro-araméen a désigné ce que l'Occident a appelé la messe. Un mot simplement tiré de la formule latine finale de la messe, ite missa est, qui veut dire, eh bien, l'assemblée est envoyée. En fait, le mot araméen kurbana est beaucoup plus riche, mais il n'avait pas d'équivalent en latin ou en grec. Le mot « rencontre » est un mot récent, que ce soit en français ou dans d'autres langues européennes. Donc on ne savait pas traduire « kurbana » en latin ou en français. Ainsi, « kurbana » évoque une rencontre vivante avec une présence réelle. Pour un oriental, il est évident que dans le culte eucharistique, il faille un contact corporel, un contact qui change quelque chose en soi. Comme quand un converti dit « j'ai rencontré Jésus ». Il n'y a pas de mot pour le dire en grec ou en latin. En grec, on a traduit « kurbana » par « eucharistein », c'est-à-dire « bien rendre grâce ». On s'est ainsi éloigné du sens premier, en insistant sur un aspect particulier de la rencontre. Bien sûr, quand on rencontre Dieu, on le remercie, on lui rend grâce, mais pas seulement. Rencontrer, c'est plus que remercier. Une fois que l'on a compris ce mot, eh bien, on va se rendre compte que dans l'évangile selon saint Jean, il y a tout un enseignement sur le kurbana dans un fil vertical, donc celui d'aujourd'hui, que j'appelle D, le quatrième fil vertical, qui commence en Jean chapitre 2, versets 13 à 25. Donc, c'est l'épisode où Jésus va au temple. Donc, vous savez que le temple de Jérusalem était mondialement connue et que Jérusalem, depuis Hérode le premier, était devenue un grand centre commercial, avec des commerçants qui venaient d'Espagne ou qui venaient d'Inde. C'était une plaque tournante. Et donc, l'entrée du temple avait pu être encombrée par les marchands et les banquiers. Et Jésus déblaye, il purifie cette entrée. Pourquoi? Eh bien, pour que nous puissions rencontrer Dieu. Pour que nous puissions être vus de Dieu sans être encombrés de tout ce trafic. Deuxième perle, Jean chapitre 5. On voit ici Jésus qui s'approche. Il voit dans la foule le paralytique qui n'a personne. Il lui parle et il le guérit. Il prend le temps de la rencontre, qui est le sens premier du Corbana. Jésus retrouve l'homme au temple, lieu du sacré. La rencontre, le sacré, vous sentez toutes les harmoniques. Troisième perle, nous sommes à Capharnaüm. C'est la fin du discours du pain de vie. Mais le pain de vie nous met en contact, c'est un Corbana. Nous met en contact, nous dit Jésus, avec le Fils de l'homme remonté au lieu où il existait auparavant. Jean chapitre 6, verset 62. Ce qui est bien sûr mystérieux. L'expression « les saints mystères » est heureuse quand on parle du pain de vie, de l'Eucharistie, de la messe. Le discours de Jésus concernait aussi le sang du Fils de l'homme qu'il faut boire. Jean 6, verset 53. Les auditeurs ne pensent bien sûr pas à une sorte d'anthropophagie. Jésus leur a précisé que c'est l'esprit qui vivifie. Pourtant, ils sont nombreux à partir. C'est ici qu'il faut se souvenir du récit de la création. Dieu dit « Faisons l'homme, Adam, de la racine d'âme, le sang, à notre image, comme notre ressemblance, ressemblance du verbe « dama », ressembler, être consanguin. » Genèse chapitre 1, verset 26. Les saints mystères établissent un contact, Corbana, qui réalise cette ressemblance. C'est vraiment le sens le plus profond de la rencontre, Corbana. Pierre le pressent et s'écrie « À qui irions-nous? Les paroles de la vie qui est pour toujours sont avec toi. » Et puis Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Bien sûr, c'est le Père qui donne à chacun l'étreinte du Christ époux. Et donc ce verset est éclairé, encore une fois, par la perspective du Corbana chrétien, la rencontre. Le Corbana n'est pas une expérience identique pour chacun à chaque liturgie. Elle dépend du dessein du Père qui voit les dispositions de chacun, sa volonté d'être fidèle à la divine volonté, ce qui convient pour son progrès. Ainsi, à chaque messe, c'est différent pour vous. C'est une rencontre unique. Quatrième perle. Donc, c'est un fil transversal. Alors, nous passons du chapitre 6 au chapitre 10. Nous retrouvons dans cette perle les deux notes du Corbana. Le Corbana désigne d'abord le fait de s'approcher, la proximité. Eh bien, écoutez, c'est le discours du bon pasteur. Et le troupeau écoute sa voix. Et ses moutons, il les appelle par leur nom et les fait sortir. Verset 3 et encore verset 14. « Je connais ce qui est mien et je suis connu de ce qui est mien, de la même façon que mon Père me connaît et que je connais mon Père. » Le disciple reçoit alors sa route comme un don, en sentant que le Seigneur est sa vie et que ses pas lui sont donnés. Or, dit aussi Jésus, pour moi, il y a d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos-là, et eux aussi, il me faut les faire venir, et ils écouteront ma voix. Voilà, le Corbana de Jésus est ouvert, hein, à ceux qui vont se convertir. Un Corbana désigne aussi un sacrifice. Ici, c'est le sacrifice de Jésus lui-même. L'immolation de Jésus correspond à la volonté du Père, l'union à la volonté divine qui donne à l'humanité de Jésus l'autorité, la permission, le pouvoir de déposer sa vie et de la reprendre. Et je dépose mon âme en échange du troupeau. Jean 10, verset 15. C'est pour cela que mon Père éprouve de l'amour pour moi, car je dépose mon âme et de nouveau je la reprends. Ce n'est pas un homme qui me l'enlève, mais c'est moi qui la dépose de ma propre volonté. J'ai autorité en effet pour la déposer et j'ai autorité de nouveau pour la reprendre, car celui-ci est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Le bon pasteur qui donne sa vie pour son troupeau, le sacrifice courbana est le sien propre. Allez, cinquième perle. Nous arrivons au chapitre 12. 12, versets 12 à 19. Qu'est-ce qui se passe? La foule sort à la rencontre de Jésus. C'est le dimanche des rameaux, comme on dit, hein? La foule nombreuse sortit à sa rencontre. Ben voilà! Et Jésus vient à la rencontre de Jérusalem. Comme il est écrit, ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. Voyez ce mouvement, c'est le mouvement typique du Courbana. Et la foule chante Hosanna, sans bien comprendre encore que Jésus sera sauveur par son sacrifice. Vous voyez le Hosanna de la messe. La messe que les Araméens, les Syriaques, les Irakiens appellent Courbana. Sixième perle. Ici, le contact du Courbana est décrit comme un contact vivant, vital, qui demeure en moi et moi en lui. Celui-là produit de nombreux fruits, parce que sans moi, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Et on parle encore non seulement du contact, mais du sacrifice du Courbana, comme un acte d'amour. D'amour brûlant, il n'y en a pas de plus grand que celui-ci, qu'un homme dépose son âme en échange de ses amis. Septième perle. Nous arrivons au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus est flagellé, le sang est versé. Il est flagellé, couronné d'épines, condamné à la crucifixion. Le sacrifice volontaire de Jésus s'entend lorsque Jésus dit à Pilate qu'il n'aurait aucune autorité si elle ne lui était pas donnée d'en haut. C'est lui-même qui, avec le Père et l'Esprit, consent à donner une telle autorité à Pilate, dont Pilate se sert pour commettre un péché. Voilà. Alors, à la perle précédente, il y avait « Et si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'avant vous, il a eu de la haine pour moi. » Bien, la passion du Christ embrasse par avance la douleur des disciples, la rencontre et la touche pour la sanctifier par avance. Ouais, voyez, le courbana s'accomplit. Huitième perle et dernière. Jean chapitre 20, versets 26 à 31. Le ressuscité dit à Thomas, « Fais venir ton doigt ici même et vois mes mains. Et fais venir ta main et étends-la dans mon côté. » Le contact courbana de Thomas avec Jésus est une rencontre bouleversante avec l'amour divin. Ce contact est analogue à celui du sarment avec la vigne dans la cinquième perle. Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Voyez que c'est une composition orale, hein, qui est faite pour respirer. Ce qu'on appelle des pets de gamme, on respire. Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et on se balance de droite à gauche et on retient par cœur. Thomas a touché son Dieu. Désormais, Thomas aura la vitalité d'aller très loin sur les routes de la mission. Et il portera beaucoup de fruits. La mission des 8 jours après clôture la semaine d'investiture des apôtres comme grands prêtres. Il faut lire le Lévitique. Être prêtre signifie donc être spécialiste de la rencontre de l'homme avec Dieu. Le prêtre, c'est le spécialiste du Courbana. Et c'est évident pour les églises d'Orient. Maintenant, nous voyons un autre thème dans ce même fil vertical, D. Nous appelons ce thème « Jésus relève le temple ». Et nous recommençons à la première perle, Jean chapitre 2, versets 13 à 25. Tout d'abord, il est dit que la Pâque est proche. Jésus entre dans le temple et chasse les changeurs de monnaie et les vendeurs d'animaux en déclarant « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ». On l'a expliqué tout à l'heure. Ensuite, les Judéens demandent à Jésus de s'expliquer. Pourquoi peut-il faire cela? Et Jésus donne cette réponse très surprenante. Abattez ce temple-ci, et en 3 jours, moi je le relève. Au moment du procès de Jésus, de faux témoins prétendront que Jésus a dit qu'il détruirait le temple, mais Jean rapporte la version exacte de ce qu'a dit Jésus. Abattez ce temple. Jésus ne détruit rien. Mais comme Jérémie l'avait vu avant lui, Jérémie chapitre 7, versets 11 à 14, Jésus sait que c'est l'iniquité qui chasse la présence divine du temple et par conséquent qui détruit le temple. En 3 jours, je le relèverai. Cette expression annonce la résurrection de Jésus. Et elle annonce aussi la future structure de l'Église qui devra s'inspirer de la structure du temple révélée à Moïse. Tout cela, les disciples le comprendront, mais plus tard. Deuxième perle, donc vous vous souvenez, c'est le paralytique. Il est guéri et c'est au temple que Jésus le retrouve. Et il est guéri un jour de Shabbat, Jean chapitre 5. Le Shabbat impose à l'homme de cesser de travailler. Ce rituel est motivé par le fait qu'il est dit que Dieu créa le monde en 6 jours, mais que le septième, il se reposa et le consacra. Livre de l'Exode, chapitre 20. Ce rituel permet à l'homme de rencontrer ainsi Dieu, non plus sur le registre du travail, de la production d'œuvres, mais en tant qu'interlocuteur. On va bavarder, on va se rencontrer. La guérison de ce paralytique permet à l'homme guéri d'accomplir le sens profond du Shabbat en se rendant au temple pour y être vu de Dieu et le rencontrer. Réciproquement, durant le Shabbat, Dieu n'agit pas, mais il se fait connaître dans son amour paternel. En s'adressant au paralytique, Jésus réalise cette attention du Père pour lui. En ce sens, il accomplit le Shabbat du côté de Dieu. Et au temple, Jésus ajoute « Ne pêche plus ». De quel péché le paralytique est-il délivré? Est-ce que cette histoire d'ange qui agite les eaux dans la piscine à côté là, du temple serait un retour au paganisme? C'est pas sérieux. On ne peut pas penser ça parce que les légistes de Jérusalem auraient interdit une dérive païenne. Or, on voit bien dans l'Évangile qu'il n'y a pas de controverse, ni avec Jésus, ni de l'évangéliste, ni des Juifs. Personne ne dénonce ce lieu comme un lieu de paganisme. Alors, quel est le péché de cet infirme? Il dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Sa paralysie vient-elle d'une débauche du passé? A-t-il un mauvais esprit qui lui fait éprouver de la solitude, personne, et de la jalousie, un autre avant moi? Fait-il un raisonnement fataliste qui le cloue sur place? De toute façon, le temps que j'y aille, un autre avant moi? À la fin du récit, l'homme guéri va vers les autres, vers les Juifs, pour répondre à leurs questions en leur annonçant Jésus. Cet homme est-il guéri dans sa vie relationnelle? Ou bien faut-il imaginer que cet homme se décharge sur Jésus du reproche des pharisiens qui le voyaient porter son lit un jour de Shabbat? Précisément, cet homme, qui n'a pas de nom, n'a pas non plus un péché bien défini. C'est le péché de toute l'humanité, le péché originel qui sépare l'humanité de la présence de Dieu. Le pardon, traditionnellement dispensé au temple, va changer de dimension. Jésus va bientôt donner le pardon du péché originel, du péché de tous les hommes, de la racine de tous les péchés. Regardez. Troisième perle. Donc, troisième perle, vous vous souvenez, c'est le discours du pain de vie. Alors, il y a des disciples qui ne marchent plus avec Jésus et il y a Pierre qui professe sa foi. Mon Seigneur, auprès de qui irions-nous? Les paroles de la vie qui est pour toujours sont avec toi. Et nous, nous avons cru et reconnu. Tu es lui, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Alors, l'expression « le Messie, le Fils de Dieu vivant » se lit dans tous les manuscrits araméens. Mais la plupart des manuscrits grecs donnent « tu es le Saint de Dieu ». En fait, ces expressions ont un point commun. Elles renvoient au livre de Daniel, auquel Jésus s'était référé en se présentant comme le Fils de l'homme. Or, Daniel a aussi prophétisé un mystérieux « Saint des saints » qu'il faut oindre, Daniel chapitre 9, verset 24. Le temple de Jérusalem ne devant pas être oint, il s'agit nécessairement du Messie. Le mot « Messie » a la même racine que le verbe « oindre ». En référence à Daniel, Jésus peut à la fois être appelé le Messie, fils de Dieu, ou le Saint des saints, demeure divine ou Dieu lui-même. C'est synonyme dans le contexte. Alors, quatrième perle, Jean chapitre 10. Jésus se présente comme la porte du troupeau, ce qui peut encore se référer au temple. Le berger dort à l'entrée de la bergerie durant la nuit. Il devient ainsi la porte protectrice de son troupeau en cas d'agression extérieure ou de menace, un loup, un voleur. C'est pourquoi Jésus est aussi bien le bon berger et la porte. Une maison sans porte n'est qu'une ruine. Ceux qui ont fait un peu de biologie savent qu'une cellule vivante se définit avec un échange entre l'intérieur et l'extérieur, la porte et sa membrane cellulaire. Il n'y a pas de vie sans porte. Celui qui méprise la porte et qui nie l'existence de la porte, celui-là détruit la possibilité de l'échange entre un intérieur et un extérieur. Il détruit ce qui fait la vie. L'Évangile dit « Le voleur ne vient point, sinon pour voler et tuer et faire périr ». Et bien sûr, le voleur ne passe pas par la porte. On peut aussi parler du langage de la prière de libération. On dit que le péché ouvre les portes aux démons et qu'après la libération, il faut fermer ces portes, qui sont d'abord les cinq sens. En ce sens, Jésus est la porte qui relève le temple de l'âme. Revenons au texte. L'explication est scandée par « je suis »,« je suis », »,« je suis moi la porte », deux fois, et puis deux fois « je suis moi le bon pasteur », le bon berger. Certains commentateurs modernes s'interrogent sur ces répétitions qui leur semblent inutiles, alors qu'elles servent à donner un rythme pour soutenir la mémoire. C'est un refrain, on est dans une civilisation orale. « Je suis moi ». La porte du troupeau. Et tous ceux qui sont venus étaient des voleurs et des brigands, et le troupeau ne les a pas écoutés. Je suis moi la porte, et si un homme entre par moi, il vit, et il entre, et il sort, et il trouve un pâturage. Je suis moi le bon pasteur, et le bon pasteur dépose son âme en échange de son troupeau. Au contraire, le salarié s'enfuit devant le loup, il ne se préoccupe pas du troupeau. Je suis, moi, le bon pasteur, je connais ce qui est mien, et je suis connu de ce qui est mien, de la même façon que mon père me connaît et que je connais mon père. Et je dépose mon âme en échange du troupeau. Or, j'ai aussi d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos-là. Et eux aussi, il me faut les faire venir et ils écouteront ma voix. Et le troupeau tout entier sera un et un unique pasteur. Voyez comme c'est beau. J'ai pas tout lu, hein. On n'a pas lu tous les versets, mais on a bien entendu les refrains. Pour le brigand, pour les idéologues et les dictateurs, les hommes ne sont que des choses qu'ils possèdent. Pour le bon berger, pour le vrai pasteur, les hommes sont des êtres libres, orientés vers la vérité et vers l'amour. C'est pourquoi le bon pasteur ne les utilise pas, mais il donne sa vie pour eux. Chapitre 12, cinquième perle. Nous sommes au moment où la foule acclame Jésus, roi d'Israël, en portant des rameaux. Et Jésus est assis sur un ânon. En cela, il accomplit la prophétie de Zacharie. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et la prophétie continue. L'arc de guerre sera retranché, il annoncera la paix aux nations. L'âne s'oppose au cheval de guerre. David n'avait pas pu bâtir le temple parce qu'il avait trop guerroyé. Aussi était-ce son fils Salomon, le pacifique, qui l'avait bâti. Jésus, qui avait annoncé en 3 jours, moi, le temple, je le relève, annonce maintenant par un geste fort que sa royauté est pacifique, comme l'était celle de Salomon. Sixième perle. Jean chapitre 15. Cette perle nous parle aussi du relèvement du temple d'une manière mystique, intérieure. On va le réciter oralement. Je suis, moi, la vigne en vérité. Et mon père est, lui, le cultivateur. Tout sarment qui en moi ne donne pas de fruits, il l'enlève. Et celui qui donne des fruits, il le purifie, afin que de nombreux fruits, il produise. Vous, déjà, vous êtes purs à cause de la parole dont j'ai parlé avec vous. Demeurez en moi et moi en vous. De la façon dont le sarment est incapable de donner des fruits de lui-même, sinon en demeurant sur la vigne, de la même façon, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis, moi, la vigne, et vous êtes les sarments. Qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là produit de nombreux fruits. Parce que sans moi, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Si donc un homme ne demeure en moi, il est jeté au dehors, comme le sarment sec, et il le ramasse, le jette au feu, afin qu'il brûle. On entend la répétition « en moi » 5 fois, qui s'oppose à « au dehors ». Le fait de demeurer en moi ou sur la vigne est similaire au fait de demeurer dans le temple. La vigne et le temple sont liés, mais avec des connotations complémentaire. L'image de la vigne est essentiellement vivante, elle exprime la transmission de la vie divine. Le chrétien est celui qui est branché sur le Christ par l'Esprit Saint, et il est appelé à grandir. Tout sarment qui porte du fruit, le Père l'émonde, afin que de nombreux fruits il produise. Alors que le temple est l'image de l'Église en tant qu'institution. Il permet à la vie de grandir dans l'existence de chacun et dans l'histoire du monde. Au temple, la liturgie fait un mémorial de l'histoire sainte. Et ce mémorial constitue en quelque sorte l'enracinement qui permet à la vigne de porter du fruit. Mais l'institution et la vie vont ensemble. Benoît XVI disait que l'exaltation propre à l'homme et aux institutions doit être émondée, en reprenant l'image de la vigne. Et puis, il y a une curiosité. Il est dit que le rameau sec, qui n'est pas alimenté par la sève, celui-là, il le ramasse, le jette au feu afin qu'il brûle. Jean 15, verset 6. Le « il » arrive dans le texte sans autre explication. Mais les auditeurs de Jésus, comme les auditeurs de Jean, ont déjà reçu un autre enseignement qui est conservé dans le lectionnaire, l'évangile de saint Matthieu. À l'aboutissement du temps, les anges arracheront l'ivraie du champ et la brûleront. Matthieu, chapitre 13, verset 40. Ce « il » qui va brûler, ceux qui vont jeter au feu le rameau sec, se réfère à la venue glorieuse de Jésus. Le feu qui brûle, c'est encore l'amour de Dieu, mais perçu par quelqu'un qui rejette l'amour de Dieu, qui va donc être damné. Alors, retenez que dans ce passage, on a répété 10 fois le verbe ou la racine « demeurer ». C'est la persévérance, être patient. Au début, on est facilement enthousiaste, mais il faut ensuite marcher avec constance sur les chemins monotones que l'on est appelé à parcourir dans la vie. Il faut avancer patiemment, laisser se briser l'élan romantique du départ pour ne laisser que l'adhésion profonde et pure à la foi. C'est justement ainsi que le vin se bonifie. Là, l'image du vin et de la vigne. Alors, continuons avec les versets 9 et 10, l'amour. De la même façon dont m'a aimé ardemment mon Père, moi aussi je vous ai aimé ardemment. Demeurez dans l'affection d'amour qui est la mienne. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans l'ardeur d'amour qui est la mienne. De la même façon dont moi, j'ai conservé les commandements de mon Père et que je demeure, moi, dans l'ardeur de son amour. Il y a deux verbes aimer. Il y en a un de racine « hub » qui exprime l'amour volontaire, ardent, l'alliance, tandis que l'autre de racine « rechem », de la même racine que « utérus », exprime une tendresse. Continuons la lecture. De la même façon dont m'a aimé ardemment mon Père, racine Hub, moi aussi je vous ai aimé d'un amour d'alliance, racine Hub. Demeurez dans la tendresse, racine Rechem, qui est la mienne. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans l'amour de volonté qui est le mien. De la même façon dont j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure, moi, dans son amour de volonté. Voyez comment on peut traduire un peu différemment le même verset. Donc, il y a toutes ces nuances d'amour de volonté et d'amour de tendresse, d'affection. La communion d'amour conduit à une communauté de destin, des disciples avec Jésus. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vont persécuteront. Allez, 7e perle, la flagellation. Eh bien, le corps est aussi un temple, et quand quelqu'un autorise le péché à régner sur son corps, il devient esclave de Satan. Et Jésus est flagellé, c'est-à-dire durement blessé de la tête aux pieds, afin de laver le péché par son sang, pour que nous trouvions la guérison, et que notre corps puisse redevenir le temple de l'Esprit-Saint. Allez, 8e perle. Thomas, Jean chapitre 20. Thomas va donc toucher les plaies de Jésus, les 5 plaies de Jésus. Et on peut se rappeler que dans la perle, Jean chapitre 15, il y avait 5 fois « demeurez en moi ».« Demeurez en moi ». Et il y a 8 jours qui séparent cette apparition de la précédente. Eh bien, ces 8 jours font écho au livre du Lévitique, hein, où l'ordination, c'est-à-dire la consécration, l'investiture des grands prêtres, dure une semaine. Et il est dit au chapitre 21 du livre du Lévitique que le grand prêtre ne doit pas sortir du lieu saint. C'est incroyable, c'est impossible, et finalement il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Lévitique chapitre 21 versets 10 à 12. Eh bien, le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, les apôtres, ne doivent pas sortir du lieu saint. Ils ne doivent pas sortir de Jésus, demeurer en moi. Voyez comme le fil vertical est parfaitement cohérent. Il y a une synthèse que l'on peut faire aussi sur un thème qui concerne la société tout entière. Nous avons un jeu d'écho dans le fil, mais il y a aussi une cohérence avec un enjeu. Le collier comporte une dramatique spécifique qui oppose deux organisations différentes. Vous avez l'organisation du prince de ce monde qui est écrasante. C'est l'organisation de la pyramide, dominée par la puissance de l'argent et par César. On y voit des vendeurs. Première perle, les vendeurs du temple, des voleurs, des brigands furtifs et rapaces, discours du bon berger, quatrième perle, et finalement les judéens qui demandent la mort de Jésus en déclarant « nous n'avons pas d'autre roi que César », septième perle. Voyez-vous, l'organisation du prince de ce monde, c'est l'universalité d'un empire dont le chef a le pouvoir de tuer, et auquel parfois on rend un culte, parfois explicite. Jésus propose une autre organisation. Le temple, tel que Jésus le relève, première perle et huitième perle, ressemble à une vigne qui vivifie ses rameaux, sixième perle, Jean chapitre 15. Son universalité n'a rien d'écrasant. Jésus est le roi pacifique qui ne veut la mort de personne. Le chef sert et met en valeur les potentialités de chacun, comme le cep de la vigne permet au rameau de porter du fruit. Il en pose les conditions favorables. La société, on parle à ce sujet de subsidiarité, est vivifiée par l'Esprit Saint, comme la vigne est nourrie par la sève. Eh bien, écoutez, j'ai fait des beaux schémas dans mon livre, des beaux dessins qui permettent de comprendre cela avec la pyramide et la vigne. Mon livre s'appelle « Jean, l'évangile enfilé » aux éditions Paroles et Silence, avec la préface de Mgr Mirkis qui est irakien. Retrouvez aussi mes YouTube avec des schémas sur ma chaîne qui s'appelle Françoise Brenard, B-R-E-Y-N-A-E-R-T, ou sur mon site qui s'appelle foi-vivifiante.fr. Un site qui est fort intéressant parce que vous y retrouverez aussi beaucoup d'autres choses. La prière de libération, la venue glorieuse du Christ, des prières, des différentes prières, des choses dans la divine volonté, etc. Donc, foi-vivifiante.fr. Eh bien, l'heure approche de terminer. Avez-vous des questions?
Voilà, Françoise, il n'y a pas de questions pour l'instant.
Il n'y a pas de questions? Bon, bah alors Jérôme, avez-vous des questions, vous?
Eh bien écoutez, non, je vais déjà essayer de réécouter pour bien assimiler.
Donc on a fait la synthèse d'un...
Mais oui, c'est très important la synthèse que vous avez fait, Françoise.
D'un fil transversal, c'est très original, on lit comme ça, il y a un fil transversal, et on se rend compte qu'il y a tout un enseignement sur l'Eucharistie, que les orientaux appellent Kurbana, la rencontre, le sacrifice, le contact. Il y a un enseignement sur le temple. Voilà, oui. Il est l'heure.
En tout cas, merci, merci beaucoup Françoise de nouveau pour cet enseignement.
Au revoir Jérôme.
À bientôt.
À la prochaine.
Au revoir.